France Culture, les matins du samedi, Caroline Bombay.
Chère Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, le Conseil constitutionnel a validé l'ouverture d'un référendum au sujet de la privatisation d'ADP. C'est à la une du Monde et du Figaro ce matin.
Et les termes sont empreints d'un certain sensationnalisme. Référendum citoyen, l'onde de choc politique pour le Figaro. Pour le Monde, l'entrée fracassante du RIP. Le journal ne lésine pas sur les mots. Hein. La décision est historique. Pour la première fois, une coalition des oppositions s'opère contre le président. Sur le plan institutionnel, c'est une grande première. Et pour l'exécutif, un revers. Avec cette décision, Emmanuel Macron se trouve mis en échec, je cite. Pour le Figaro, la boîte de Pandore est ouverte. Un piège diabolique pour l'exécutif. Dans son édito, Vincent Trémollet de Villers parle, lui, d'un mirage démocratique abracadabrant. Je le cite. Désormais, la possibilité d'un RIP permettra d'ajouter un obstacle de plus à la fabrique et à la mise en pratique de la loi. Ce que cette affaire met au jour, c'est la crise profonde de la représentation. Le RIP et la mesure de l'échec de nos parlementaires. Ce matin, la Voix du Nord ne le voit pas du même œil. Selon son éditorialiste Jean-Michel Bretonnier, le RIP est au contraire un approfondissement de la démocratie participative.
À deux semaines des élections européennes du 26 mai, Libération fait sa une. Macron, Le Pen, main basse sur la campagne.
Le journal dénonce les stratégies de campagne des deux partis. LREM et RN dramatisent ce vote et cherchent à nouveau le face-à-face de la présidentielle. Objectif ? Assécher la concurrence, nous dit Libé. Ce serait presque nous faire oublier l'existence des 33 listes électorales. Le journal en ligne Slate revient sur ce chiffre record avec l'analyse 33 nuances de politique française. Pour le journaliste Olivier Biffaut, ces 33 nuances de la démocratie peuvent difficilement faire passer la France pour une dictature. En revanche, elles sont symptomatiques de la montée des individualismes et du recul des projets collectifs. Il ajoute un recul surtout des slabs à gauche, alors que le nationalisme et le populisme, comme dans les autres pays de l'Union, s'installent puissamment.
Autre décryptage dans Atlantico.
Avec le texte « Lunettes noires ou lunettes roses, quatre visions d'avenir sur les possibles de l'Europe d'ici 2024 ». Quels sont les grands enjeux auxquels sera confrontée l'Union ces cinq prochaines années? Pour Yves Bertoncini, ce que les élections permettront d'entrevoir, c'est l'aptitude des Européens à faire prévaloir leurs intérêts communs en s'unissant davantage. À l'inverse, pour l'historien Édouard Husson, l'Union Européenne est un énorme paquebot. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une flotte de bateaux de taille intermédiaire, pas de création d'un super État.
Alternative économique ce mois-ci va même jusqu'à poser la question, le projet européen est-il mort?
Le magazine cherche à démêler toutes ces problématiques dans son dossier « À quoi sert encore l'Europe ?». Alors pour comprendre pourquoi le bateau tangue, il faut remonter à la source du projet européen. Les pères fondateurs ont choisi de faire une Europe économique. L'idée était qu'à force de faire des affaires ensemble, nous ferions naturellement de la politique ensemble. Mais cela n'a jamais vraiment fonctionné. Au contraire, cette logique d'Europe-marché a exacerbé la concurrence entre les pays, notamment sur le marché de l'emploi.
Et on termine avec la une de Courrier International cette semaine. En couverture, une photo qui a fait le tour du monde. La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui serre dans ses bras une femme musulmane après les attentats de Christchurch.
Après les attentats, Jacinda Ardern a reçu les applaudissements du monde entier et les articles relayés dans ce dossier sont très élogieux. La plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la Nouvelle-Zélande est une anti-Margaret Thatcher. Elle incarne une nouvelle façon de faire de la politique. Le pays redevient un laboratoire social du monde tel qu'il était au 19e siècle. Ce qui rend son gouvernement si intéressant, c'est le fond progressiste qui l'anime, je cite. Programme d'aide à la famille, congé parental allongé, accès à la location facilité, rattrapage des écarts de salaire entre les sexes, neutralité carbone pour 2050, la liste est longue. Jacinda Ardern tente quelque chose de différent. Elle prône une philosophie du bien-être. Avec elle, l'empathie est mise au premier plan de la scène politique et ça détonne. Courrier International nous dit qu'elle redonne de l'espoir aux déçus de la gauche en Europe et aux États-Unis. Le journal va même jusqu'à dire que pour réinventer la social-démocratie du XXIe siècle, elle est un exemple à suivre, un modèle pour les Européens.